première pause musicale, ma question, bon, c'est vous qui avez choisi, et on l'a suggéré de choisir les pauses musicales, pourquoi ce morceau de Ferré?
Alors, l'affiche rouge, comme on vient de l'entendre de la bouche de Ferré, met en scène indirectement le problème des étrangers qui se sont insérés dans la résistance française, entre guillemets. Là, c'est très important de souligner que la résistance, c'était la question de la lutte contre le fascisme. C'était une lutte de caractère international, et il est bien certain qu'une partie des enjeux de cette lutte ont été occultés par l'histoire officielle dont Jean-Claude Fonbaron parlait tout à l'heure. Il y a ensuite une seconde raison pour nous de présenter cette chanson, c'est que les hasards de la vie nous ont conduits à être les amis de celui qui est sans doute le compagnon le plus fidèle et le plus ancien de Léo Ferré. Il s'appelle Lucien Loubet. Et Lucien Loubet, par sa propre vie, nous a rapprochés de ce qu'on appelait les francs-tireurs et partisans, puisque lui-même appartenait aux francs-tireurs et partisans. Ensuite, la troisième raison, c'est que, à nouveau, les hasards de la vie nous ont permis de vivre à quelques kilomètres de l'endroit où Louis Aragon, l'auteur de cette chanson, et Elsa Triolet ont vécu pendant la résistance, c'est-à-dire c'est à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, dans la Drôme.
D'accord. Alors, venons-en maintenant au lit. Donc, fallait-il laisser mourir Jean Moulin? Point d'interrogation. Pourquoi ce titre avec ce point d'interrogation?
Le titre mentionne aussi bien une question qui renvoie au passé, c'est-à-dire, fallait-il laisser mourir physiquement Jean Moulin? Car on le sait bien, ou on croit le deviner, les raisons de la disparition de Jean Moulin sont politique, sans doute, pas seulement politique, mais surtout politique. Il y a une autre façon d'envisager cette question, c'est de la faire revenir au présent. Quelle est la mémoire que nous gardons de Jean Moulin? À circuler à travers toute la France, nous avons bien vu qu'un peu partout, il existe des avenues Jean Moulin, il existe des lycées, des places, et puis même, ce petit bonhomme a fini par se retrouver au Panthéon. Or, généralement, on ne sait pas du tout que Jean Moulin a écrit certains textes, quelquefois en collaboration avec le général de Gaulle, c'est-à-dire de Gaulle a accepté de signer certains textes. Donc Jean Moulin n'est pas qu'une image, n'est pas qu'un nom, c'est aussi une parole.
Et puis il était le plus jeune préfet de
France. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Jean Moulin, c'est une parole. Ce qui n'est jamais dit, c'est que Jean Moulin a commencé à faire de la résistance le 17 juin 1940. C'est-à-dire qu'à une époque où l'armée était en déroute, où les civils fuyaient leur ville, leur village, où les autorités civiles fuyaient devant les Allemands, Jean Moulin, préfet de Chartres, préfet d'Eure-et-Loire, a décidé quant à lui d'être présent à l'arrivée des Allemands dans sa ville pour protéger la population. Au matin du 17 juin, les Allemands arrivent à Chartres. Ils évoquent quelques événements avec Jean Moulin et repartent. Ils reviennent l'après-midi et demandent à Jean Moulin de signer un protocole. Et dans ce protocole, il était question de l'armée française, notamment l'armée sénégalaise, qui aurait massacré des populations civiles. Et on voulait faire signer ce protocole à Jean Moulin, qui devait accepter qui visait à déshonorer l'armée française. Jean Moulin a compris qu'il y avait derrière tout cela quelque chose de pas tout à fait net. Il a demandé des comptes aux Allemands, il a refusé de signer le papier, bien sûr il a été torturé, et les Allemands l'ont conduit en race campagne pour lui montrer ces fameuses victimes de l'armée sénégalaise. Jean Moulin s'est aperçu que les victimes qu'on lui montrait, les cadavres qu'on lui montrait étaient des cadavres victimes de bombardements, ce qui était tout à fait autre chose. Jean Moulin donc a subi des tortures atroces dès ce moment-là. N'ayant pas voulu signer ce protocole, les Allemands ont décidé d'enfermer Jean Moulin dans une cellule en lui disant « Demain, nous te ferons signer ». Jean Moulin, au cours de cette nuit, bien sûr très courte, a dû prendre cette décision. Que vais-je faire? Déjà se poser la question, que vais-je faire demain quand on voudra vraiment me faire signer? Serais-je en mesure de résister à de nouvelles tortures, étant donné qu'il était déjà pas mal affaibli physiquement et moralement?
signer ou disparaître, en fait.
Voilà, c'est cela, tout à fait. C'est-à-dire signer ou bien alors se suicider. Et, bon, le hasard a fait qu'il a trouvé un morceau de verre dans sa cellule et il a décidé de se trancher la gorge, tout simplement. Et au moment, au matin, quand les Allemands sont revenus pour faire signer ce protocole à Jean Moulin, ils ont découvert un préfet ensanglanté, en uniforme, debout, et là pour les accueillir, debout, bien présent, mais tout à fait incapable de signer aucun papier.
Vous vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, et justement vous présentez un petit peu le 17 et le 18 juin, un petit peu en une page, comme un peu une période charnière, de deux jours charnières, parce que le 17 et 18 juin, c'est là qu'il y a eu beaucoup d'événements, Jean Moulin, mais aussi le départ de Gaulle, Pétain qui baisse les bras.
Tout à fait, oui, et ce qui est étrange,
c'est que... Et le l'appel...
Ce qui est étrange, c'est que l'histoire officielle garde cette date du 18 juin de l'appel du général de Gaulle, un appel qui a été un véritable couac. Il faut dire que très peu de monde ont répondu à son appel. C'est resté une date historique, hautement fêtée, mais en fait, à l'époque, le général de Gaulle a eu très peu de monde pour aller vers lui. Quant au 17 juin 1940...
Il n'était qu'à Londres que depuis la veille.
Pardon ?
Il n'était qu'à Londres depuis la veille.
Il était à Londres depuis le 17 juin, oui, depuis la veille, oui. Mais il faudra plus d'un an au général de Gaulle pour s'apercevoir que pas grand monde répond à son appel. Alors que des gens auraient dû répondre en masse, puisqu'il y avait beaucoup de monde qui se trouvait déjà à Londres, très peu ont répondu à son appel. Et la date du 17 juin, donc de la résistance, qui mentionne la résistance de Jean Moulin, n'a pas l'air d'être retenue dans l'histoire officielle. Ce qui est un comble, ce qui est une honte. Car Jean Moulin peut avoir son nom dans les rues, sur les places, peut donner son nom au musée, aux écoles, et l'on ne parle jamais du 17 juin. Très peu de monde savent que Jean Moulin, personnage officiel, a décidé de résister aux Allemands. Alors qu'à cette époque, très peu d'officiels résistaient, la plupart partaient, quittaient leur mairie, quittaient les préfectures, les sous-préfectures, c'était la débâcle.
Donc il y a eu là, si j'ose dire, un préfet qui a fait ses classes dans la résistance, la première résistance, tout au début. Mais bon, si vous êtes penché sur la personnalité elle-même de Jean Moulin, quels sont les traits, indépendamment, je dirais, de ce qu'est devenu le personnage pendant la guerre, quels sont les traits du personnage qui ont pu vous attirer, voire même vous fasciner? Parce qu'on ne s'intéresse pas à quelqu'un, je dirais, gratuitement. On trouve toujours une certaine, ou certaines affinités, ou...
L'aspect philosophique,
politique. Voilà, certains aspects qui vous plaisent dans un personnage tel que vous avez envie de le connaître beaucoup mieux, et surtout envie de le faire connaître beaucoup mieux tel qu'il était en réalité, et non tel que l'histoire a pu le déformer par la suite.
Il y a effectivement le personnage historique, très mal connu. C'est vraiment, Jean Moulin est vraiment l'inconnu du Panthéon. Et il y a l'homme. Jean Moulin était profondément humain. Cette résistance aux Allemands le 17 juin, tout seul face aux Allemands, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la mesure où tout le monde fuyait, lui décide carrément de résister. Et c'est quelqu'un qui pratiquait son métier de préfet en toute conscience, c'est-à-dire que lui était là, dans la mesure où les Allemands envahissaient la France, lui était là pour protéger les populations civiles, ce qui est tout de même un des premiers rôles du préfet.
Et les affinités, si j'ose dire, personnelles que vous avez pu ressentir par rapport au personnage, qu'est-ce qui vous a plus touché ou peut-être même ému ou passionné dans Jean Moulin, dans la personnalité de Jean Moulin? Parlons un peu des auteurs aussi en même temps. Parce que là, vous parlez du personnage, vous dissimulez en fait derrière Jean Moulin, mais vous en parlez avec tellement de passion qu'en définitive, c'est quelqu'un qui ne vous est pas indifférent, loin de là, je pense. Alors, quelles affinités?
C'est d'abord certainement l'isolement de Jean Moulin, puisque nous sommes tous les deux très isolés au total depuis, dans ce cas, une vingtaine d'années. Donc en découvrant Moulin, le décalage entre la réputation et puis la réalité même de sa résistance, c'est-à-dire que lui, pendant toute la résistance, a vécu dans des conditions matérielles très difficiles, il était très fatigué, il savait que les responsabilités qui pesaient sur lui étaient énormes. Mais pour porter tout cela, il avait un énorme bagage politique, c'est-à-dire qu'il avait été très marqué par la naissance du Front Populaire et il avait été très lié au gouvernement de Front Populaire. Cette initiation-là...
On lui a donné beaucoup de qualificatifs, y compris de crypto-communiste et d'autres qualificatifs.
Oui, ça, ce n'est pas sérieux du tout.
Oui, il faut toujours bien penser que quand on dit crypto-communiste, ça tend à remplacer ce qu'on disait pendant la guerre. On s'en prenait au judéo-communiste.
D'accord.
Alors là, maintenant, comme apparemment il ne faudrait plus s'en prendre aux juifs, alors on s'en prend aux crypto, c'est-à-dire à des gens qui... en douce, ont certaines positions et ne les dévoilent pas vraiment, sauf à l'occasion. Voilà.
Bien.
Je voudrais aussi ajouter une petite chose, c'est que Jean Moulin donc a signé ce premier acte de résistance le 17 juin, mais il faut dire qu'il avait derrière lui une trajectoire familiale. C'est-à-dire que son grand-père avait été emprisonné sous Napoléon III, parce que son grand-père était profondément républicain. Son père était président de la Ligue des droits de l'homme et profondément républicain. Jean Moulin lui-même, ce qui n'était pas forcément évident, mais était aussi profondément républicain. Et il est certain qu'en 1934, lors des événements du 6 février, lorsque les ligues d'extrême droite étaient dans la rue pour renverser l'Assemblée nationale, il est certain que Jean Moulin a pris conscience de cette montée du fascisme qui devenait de plus en plus terrible. Et pour nous, Jean Moulin a été déjà un résistant bien avant 1940. Déjà en 1934, il avait pris conscience de beaucoup de choses.
Je vous propose une deuxième pause musicale.